Bonjour à tous. On va commencer. Donc, je me présente, Benjamin Talmar. J'espère que vous avez eu le plaisir d'assister à la keynote et que ça a correspondu quand même à vos attentes, même avec les pannes réseau. Là, normalement, on a le réseau. Ça devrait aller.
J'ai testé.
Et j'ai la chance d'être avec Florent. Florence, tu veux dire deux mots?
Bonjour, donc Florence Antin, je travaille pour la société Infinite Square. Donc, mon métier, c'est d'accompagner nos clients à mettre en place Windows Azure donc sur des scénarios de migration ou sur des nouveaux projets. Et puis, on va attaquer parce qu'on a, un agenda un peu serré. On veut vous montrer beaucoup de choses.
Ouais, juste avant qu'on commence, c'est la première fois que vous voyez cette slide. On a un site pour vous permettre de donner vos feedbacks. Alors, allez-y, n'hésitez pas, c'est très important pour nous. Moi, personnellement, c'est ce qui permettra à mon chef de me donner une augmentation à la fin de l'année. Ou alors, il me dira pourquoi j'ai pas eu l'augmentation. Donc, c'est important quand même de lui donner de la matière pour ça.
Et à moi d'être réinvité l'année prochaine.
Voilà. Ok, donc depuis 2008, le tout début d'Azure, il y a eu énormément de services qui ont été créés, énormément de nouveautés sur chacun des services. Cette slide ici, je ne l'ai pas mise pour vous faire peur. On ne va pas la parcourir pendant une demi-heure, rassurez-vous. C'est juste pour vous montrer l'étendue de Windows Azure. En fait, Windows Azure, on le considère comme une boîte à outils pour réaliser ses applications, pour réaliser ses solutions. Donc vous, en tant que développeur, architecte, personne plutôt orientée IT, vous allez prendre différentes briques de cette toolbox, de cette boîte à outils pour créer vos solutions.
Ce qui est important en fait, c'est que donc c'est pas une usine à gaz justement. On a volontairement voulu mettre ce slide pour ça. Windows Azure, ça existe depuis 2008 et on a une base qui est solide, la partie hébergement en tant que telle. Et ce qui se passe, c'est que depuis 1 à 2 ans, on voit une accélération de nouveaux services qui viennent s'ajouter. On va en explorer pas mal aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une base solide, il y a plein de choses qu'on pouvait faire en développement nous-mêmes. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on faisait à la main, Microsoft vient nous le fournir sous la forme de services en clic-clic. Donc, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et se concentrer sur créer de la valeur. Donc, on est parti, on va explorer tout ça. Donc, j'espère que ça ne va pas être trop intense. Donc, première notion sur la partie hébergement. Donc, première partie hébergement. Donc, il y a 4 manières de faire de l'hébergement d'applications dans Azure. La première, et qui est la plus simple, c'est du website. Le website, c'est quoi? Concrètement, c'est un serveur web mutualisé ou dédié. Donc, c'est un bon 2IS, comme vous pourriez l'avoir chez vous, dans lequel vous allez pouvoir pousser votre code, votre applicatif, et qui va fonctionner tel quel. Sans packaging, c'est du code qui est complètement indépendant d'Azure. Donc, vous le poussez, il fonctionne. Donc, tout ce qui va fonctionner dans 2IS va fonctionner dans un website Azure. Donc, du PHP, du .NET, bien évidemment, ou n'importe de l'HTML statique, donc n'importe quoi va pouvoir fonctionner là-dedans. C'est quand même du cloud, donc c'est scalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, vous allez pouvoir tourner sur un seul website. Et puis, dès que vous allez avoir du trafic, vous allez pouvoir dire je me mets sur 2 websites en parallèle ou 4 websites en parallèle, voire sur une instance dédiée. La deuxième partie. Benjamin.
Ah, c'est moi. Non, vas-y.
Bon, OK. Donc, la partie cloud service. Donc, ça, c'est l'Azure des premiers jours. Donc, l'Azure des premiers jours, c'est tel que ça a été construit en 2008 pour les développeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le PaaS, le Platform as a Service. À quoi ça sert ça? En fait, je vais développer une application et la penser pour le cloud. Donc, c'est un petit peu comme quand vous faites un développement d'application Windows. Donc, vous développez votre application, elle marche sur votre environnement de dev. Et à un moment donné, vous voulez la packager, la livrer. Donc, vous allez créer un programme d'installation pour qu'elle puisse s'installer sur n'importe quel Windows avec les dépendances. Là, c'est la même chose. Vous allez créer votre application et créer un package de configuration pour dire, voilà. Mon application, c'est ça. Pour fonctionner, elle a besoin de faire telle modification avancée de 2IS, de modifier la base de registre si on veut revenir sur des vieilles applications, d'installer telle chose sur le Windows, etc. Vous prenez votre zip, votre package, vous l'envoyez dans Azure, et Azure, il va se débrouiller pour aller vous trouver des serveurs physiques et des instances sur lesquelles il va déployer votre application. On est sur du PaaS, donc vous n'avez pas à gérer du tout d'OS, ni d'infrastructure. Vous vous contentez juste de développer, de pousser votre code, de le packager, de le faire pour qu'il tourne automatiquement dans Azure. Donc ça va un petit peu plus loin que le website. On va pouvoir faire plus de choses, on a vraiment la main sur l'OS, mais par contre, on n'a pas à gérer l'OS en tant que tel. Étape suivante, le IaaS, donc l'infrastructure as a service. Donc là, c'est la possibilité d'héberger mes propres machines virtuelles. En PaaS, je ne suis pas responsable de l'OS. Microsoft me fournit un OS qui est préconfiguré, qui fonctionne. À partir du moment où je déploie dessus, il m'appartient, mais je ne le gère pas. Je ne mets pas à jour Windows ni rien. En IaaS, la VM m'appartient. Ça veut dire que je peux également faire ce que je veux dessus. Donc, j'ai préparé mon VHD, mon disque. Mon instance avec mon système d'exploitation chez moi, d'ailleurs que ce soit en Windows ou autre, en Linux, on verra l'exemple. Donc je le prépare chez moi ou je pars d'une galerie prête à l'emploi et je vais instancier mon disque pour faire en sorte qu'il tourne dans Azure. Donc là, je vais avoir une vraie VM derrière avec toutes les problématiques. Si je veux faire du load balancing par exemple, je vais devoir faire en sorte que mon OS il soit configuré pour le fonctionner. Et dernier point, mobile services. Donc ça, c'est un truc un petit peu hybride. Donc Benjamin en a parlé en plénière, enfin en keynote ce matin. Donc l'objectif, c'est de vous fournir un back-office clé en main. Donc faites de l'application mobile, que ça soit du Windows Phone, de l'iOS, de l'Android, ou même de l'HTML d'ailleurs. Vous avez toujours besoin des mêmes choses. Vous avez besoin d'une base de données, d'une couche de service qui va vous servir d'API. Vous avez besoin de faire du push, et le push, chacun le gère de manière différente, iOS, Android ou Microsoft. Et vous avez besoin de faire de l'authentification. Et pareil, chacun va le gérer différemment. Lui, il vous permet de fédérer tout ça dans un point central, et donc vous n'avez qu'une seule implémentation pour gérer le push, quel que soit le navigateur, le système d'exploitation. Mais ça, tu vas nous montrer juste après.
On va y revenir. Il y a encore quelques places devant, c'est pas grave, elles sont réservées, mais c'est trop tard, allez-y, encore 5 ou 6 places.
Réservées à vous.
Voilà. Et ça fait très classe pour la vidéo de dire que la salle était pleine.
L'immense salle. Allez, je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par la partie website.
Ta résolution, je pense, non ?
La partie website. Donc je suis dans le portail Azure. Le portail Azure, rapidement, on retrouve tous les services qu'on va évoquer pendant cette session. Donc on va s'intéresser au website. Website, très simple. Deux cas d'utilisation. Je veux héberger un site web très simple qui fonctionnerait dans 2IS. Ici, Microsoft me fournit une galerie avec des templates de projets, d'ailleurs .NET ou pas, prêts à l'emploi. Donc je vois du Drupal, vous avez du WordPress, vous avez un petit peu tout. D'ailleurs, des choses à base de SQL Server ou de MySQL. Il va se débrouiller pour créer ça. Vous choisissez n'importe quoi, même des trucs que je ne connais pas. Okay. Suivant, vous lui donnez un nom, vous choisissez le data center dans lequel vous allez être hébergé, et dans 2 minutes, vous avez votre CMS ou votre projet qui est prêt, et après vous allez pouvoir l'éditer. Donc c'est comme si je récupérais le template de ce truc-là, je le mettais dans 2IS chez moi, et puis il va fonctionner. Okay, ça c'est le cas hébergement rapide. Deuxième cas, je veux héberger du code à moi, concrètement. Donc je vais créer directement aller dans Visual Studio, parce que la particularité de Windows Azure, c'est que ça s'intègre de mieux en mieux dans Visual Studio, et c'est très bien outillé. Bientôt, vous n'aurez plus besoin du portail. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a de plus en plus de choses qu'on va faire depuis Azure. Donc ici, je suis dans Visual Studio, j'ai créé un projet web classique, et là, je vais pouvoir explorer les différents services de mon portail. Donc là, on s'intéressait au website. Donc ce que je vais pouvoir créer ici, c'est un nouveau website. Donc là, je vais demander au data center de me donner un 2IS quelque part, ici. Donc je vais m'authentifier avec mon compte, par exemple, développeur, donc un compte MSDN. Il va vérifier que j'ai un abonnement Azure. Donc à partir du moment où vous avez un compte MSDN, maintenant vous avez un abonnement Azure qui est rattaché. Hop, excusez-moi, je me connecte. Et là, donc, je vais avoir la possibilité de créer un nouveau website. Oups. Alors, je vais lui donner un nom, où je suis sûr qu'il sera disponible. Je vais choisir mon data center. Là, je ne vais pas faire de base de données, je veux juste un endroit où je peux pousser mon code. Donc là, je pourrais le pousser directement en me connectant via du FTP, je pourrais me connecter en me synchronisant un contrôle de code source ou autre. Donc il est là, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir publier ici mon website, mon site web. Je vais lui dire que je veux me connecter, je veux le publier dans ce que je viens de créer ici. Ici, donc là, je suis dans un mode de projet, un projet classique. Il me préconfigure mon assistant de publication, donc je vais pouvoir faire du web deploy. Et à partir de maintenant, là il est en train de publier, et là je suis en train directement de pousser mon code dans Azure, et ça va fonctionner directement. La particularité, la nouveauté de 2013, c'est que je vais même pouvoir faire du remote debugging, donc je vais pouvoir débugger ce code, rattacher des breakpoints, et le débugger en fait directement chez moi alors qu'il tourne dans Azure. Donc vous voyez, c'est quasiment instantané, donc on peut imaginer, demain vous avez besoin d'un environnement, d'un 2IS clé en main, vous l'avez ici. Benjamin ?
Ok, donc petit rappel pour Florent, on avait dit 2 minutes par démo.
Oui, mais tu me fais meubler au début, donc.
Ok, donc ici, moi, je me trouve sur le portail de Windows Azure, sur l'onglet Cloud Service. Donc, Cloud Service, la particularité, c'est qu'on va devoir packager une application. On va la packager pour que Windows Azure puisse la comprendre, puisse savoir quelle machine déployer, puisqu'en fait, on va pouvoir réaliser des applications multi-tiers. Là, je vais créer une nouvelle application. Et il va me demander quel rôle je souhaite créer. Dans ces rôles, ça va être par exemple un web role pour les frontaux, donc ça va être simplement une machine Windows sur laquelle il y aura IIS, ou par exemple un worker role pour traiter, générer des PDF. Et ça, je vais utiliser ce worker role, il n'aura pas IIS, il aura juste la faculté de faire tourner du code. Donc je vais tout de suite créer un web role, un worker role. Le WebRoll, il va me lancer l'assistant ASP.NET, donc le nouvel assistant ASP.NET si jamais vous ne l'avez pas vu. Maintenant, on ne dit plus ASP.NET WebForm ou MVC, on dit OneASP.NET, parce qu'on aime les deux. Et là, le projet va être créé. Donc en attendant, je vais créer une coquille vide dans Azure qui va être le cloud service qui va pouvoir recevoir le package que je vais générer avec Visual Studio. Donc je vais le créer simplement en lui donnant une URL, mon cloud service, qui existe déjà. Voilà. Je choisis un data center.
Même astuce que moi.
Et là, j'ai simplement une coquille vide dans laquelle je vais pouvoir déployer un package qui a été créé avec Visual Studio. Donc si je regarde mon Solution Explorer, j'ai bien mon web role, qui est un projet ASP.NET, mon worker role, et là j'ai un projet supplémentaire dans lequel je vais pouvoir décrire un certain nombre de choses. Par exemple, le nombre d'instances, la taille des instances. Donc c'est Windows Azure, au moment où il va recevoir la commande de déployer, qui va prendre mon package, qui va le déployer sur X machines, qui va générer à la volée, et qui va prendre les machines de la bonne taille et faire toute la configuration nécessaire, etc.
Ok, la partie machine virtuelle maintenant. Donc là, on va s'éloigner du code et penser un petit peu plus infra. Donc pareil, je suis dans mon portail, j'ai une catégorie à part entière machine virtuelle. Une machine virtuelle, c'est quoi ? C'est un disque, donc un VHD, que je vais uploader ou que je vais créer. Des images, ça c'est dans le cas où je veux créer mes propres instances de machines pour venir avoir mes propres modèles, ou ici un assistant pour venir créer une machine à partir d'une galerie. Donc qu'est-ce que je vais trouver ici ? Je vais trouver Microsoft qui me met à disposition les dernières versions de Windows prêtes à l'emploi. J'ai des machines de démo si je veux, par exemple, faire des tests avec du SharePoint, donc tout est préinstallé. Et puis, donc des machines SQL Server Bistalk ou des distribs Ubuntu, CentOS, SUSE, et même, ce qui a été évoqué ce matin en plénière, Oracle, dans le cadre d'un partenariat. Mais Oracle tourne officiellement dans Azure et est supporté. Donc, comment ça fonctionne ensuite ? Je prends l'OS qui m'intéresse, suivant, et comme tout à l'heure, je vais choisir la version de l'OS. Donc, on me propose toujours la dernière version en premier, donc la dernière mise à jour. Je lui donne un nom, je définis une taille, ici, qui va être la taille de la machine que je souhaite, un nom d'utilisateur, un mot de passe admin, et ensuite, je vais pouvoir dans 5 minutes, ma machine sera prête et je vais pouvoir me connecter en remote desktop ou en SSH dessus. Donc vraiment, de l'hébergement clé en main, très simple. J'ai rattrapé mon temps.
Ok, donc maintenant, Mobile Services, vous l'avez un petit peu vu en plénière. Le but du jeu, c'est de créer des back-ends pour des applications qui ne sont pas forcément mobiles finalement, c'est pas une application forcément sur un téléphone. Si vous avez une application sur Windows 8 ou même un site web finalement, dès le moment où cette application est connectée à l'internet et potentiellement en dehors de votre réseau, vous avez la possibilité de le connecter à Mobile Service. Bon, s'il est dans votre réseau, ça marche aussi en fait. Donc vous avez la possibilité de créer un nouveau Mobile Service directement dans le portail. Ici, vous choisissez un nom, donc vraiment cette technique est géniale. Et vous allez choisir une base de données. Donc cette base de données, c'est elle qui va héberger les données que vous allez créer dans votre Mobile Services. Vous allez voir que vous allez avoir une interface REST au-dessus de vos données. Donc vous n'allez pas forcément faire du SQL depuis votre application, vous allez appeler des API REST. Mais derrière, tout sera stocké en base de données SQL Database. On y reviendra plus tard. Je choisis un data center. Je me connecte sur un serveur existant, dont normalement le mot de passe est celui-ci. Et dans quelques secondes, je vais avoir mon mobile service qui est créé. En l'occurrence, j'ai pas dû mettre le bon mot de passe, mais c'est pas grave. J'ai ce service qui avait déjà été créé, sur lequel vous retrouvez l'ensemble des onglets correspondant finalement aux grandes fonctionnalités. Donc vous pouvez stocker des données, c'est-à-dire créer des tables dans lesquelles vous allez avoir des colonnes, mais vraiment en mode NoSQL. Quand vous allez travailler avec ces données en REST, vous n'aurez pas toutes les relations. Et dans ces tables, vous allez avoir la possibilité de créer des scripts. Ces scripts vont être exécutés à chaque opération, que ce soit un insert, que ce soit un delete, que ce soit une modification, etc. Bien sûr, vous avez des colonnes et vous pouvez définir un certain nombre de permissions si vous êtes authentifié ou non. Vous avez la possibilité de créer des custom API, c'est ce que vous a montré Sébastien en plénière, où là vous allez pouvoir mettre de la logique métier aujourd'hui en Node.js, mais très bientôt en C#. Vous avez la possibilité d'avoir des tâches planifiées par rapport à ces données-là. Là aussi, vous allez coder un script qui va être exécuté à une planification que vous aurez déterminée. Vous pouvez envoyer des push notifications, comme Florent l'a indiqué. Vous configurez l'ensemble des configurations des différents providers de push notifications en fonction des plateformes. et tout est géré pour vous. Et pareil, ce que j'ai montré en plénière, vous pouvez configurer l'authentification en configurant directement ici les fournisseurs d'identité plutôt que d'avoir à tout réaliser vous-même.
Ok pour la partie hébergement, on va parler de quelques services liés au réseau. Donc on va en évoquer deux. Donc la partie réseau virtuel. Tout à l'heure, je vous ai montré le IaaS, donc ça, je peux héberger des machines virtuelles dans Azure. Par contre, elles sont isolées. Et heureusement, d'ailleurs, les machines virtuelles dans le data center ne se voient pas les unes avec les autres. Bien heureusement. Donc ça veut dire que si j'ai deux machines à moi qui veulent parler entre elles, ben, finalement, elles vont être obligées de sortir du data center et de revenir, même si elles sont côte à côte, puisqu'elles sont vraiment isolées. Donc il y a un service dans Azure qui va vous permettre ben, de créer un VLAN, en fait, un réseau virtuel, et de dire, ben, quand je crée une machine en IaaS, je vais pouvoir la rattacher à un réseau et donc du coup, elle va recevoir directement dans le data center. Ça permet également d'éviter de les exposer directement sur Internet, puisque par défaut, mes machines, j'y accède par Internet, par du réseau public. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que bah, ce réseau, vous allez pouvoir le prendre et venir le rattacher à un VPN physique chez vous. Et donc du coup, bah, vos VM ne seront plus du tout exposées sur Internet au niveau du data center. Et finalement, là, on est dans un scénario où vous utilisez Azure pour bah, étendre votre SI. Donc chez vous, CVM, vous allez voir comme si elles étaient chez vous. Donc ça s'appuie sur un service d'Azure qui s'appelle le Virtual Network. Autre service très intéressant, le Traffic Management. Donc c'est le seul service d'Azure qui est au-dessus du data center. Par défaut, dans Azure, vous avez vu, on choisit toujours un data center. Celui-là, il est au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir la particularité de vous permettre de faire de la répartition de charges multi-data center. Donc il y a trois cas où c'est intéressant. Le premier cas, c'est j'ai des utilisateurs qui sont de partout dans le monde. Je veux avoir un scénario où l'utilisateur va se rapprocher du data center le plus proche de lui. Ben, là, automatiquement, en fonction de l'IP de l'utilisateur, si mon utilisateur est aux États-Unis et que j'ai déployé aux États-Unis, il va être rapproché du data center, d'un des data centers aux États-Unis. Donc évidemment, c'est à moi de mettre en place des mécanismes de synchronisation de données au milieu. Ça va vous permettre aussi de faire du load balancing entre data centers. Pourquoi pas? Donc les data centers fonctionnent par deux. En Europe, vous avez Dublin et Amsterdam. Vous pouvez faire de la répartition de charge entre les deux. Et dernier scénario, de l'actif passif. Les data centers ne tombent pas normalement. Donc on est sur un SLA de 99-95% avec Windows Azure. Imaginons qu'il y ait quand même un souci, catastrophe naturelle. Ben là, ça va vous permettre de dire, ben, c'est pas grave, il est tombé. J'ai immédiatement redémarré à côté. Là où normalement, il faut compter une petite heure pour redémarrer. Parce que la problématique, c'est le temps que les redirections de DNS se fassent. Je vais vous montrer ça très rapidement sur la partie réseau. Hop. Donc je reviens sur mon portail. Donc pareil, j'ai ici mon réseau. Donc comment ça se configure? Donc je vais pouvoir ici créer un réseau local dans lequel je vais définir mon VPN. Je ne suis pas obligé de l'utiliser, mais si je le souhaite. Et ensuite, je vais pouvoir venir créer un nouveau réseau ici. Donc un réseau, c'est quoi? C'est un nom, ici. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être un serveur DNS qui est dans mon réseau ou pas, d'ailleurs. Donc on va prendre un au hasard que j'aime bien. Et ici, je vais pouvoir dire que je configure le VPN site à site. Je vais venir me rattacher à mon réseau ou point à site. Donc là, je me connecte à un VPN physique chez moi, un réseau que j'ai déclaré. Et là, je vais pouvoir faire à une machine en particulier chez moi. Et ensuite, je vais définir mon adressage IP comme je le configurerai chez moi. Et automatiquement, les VM, quand je vais les rattacher à ce réseau-là, là-dedans, je peux mettre mon DNS, je peux mettre mon DHCP. Dans le cas où je suis exposé via un VPN, je peux faire une synchronisation de mon Active Directory. C'est vraiment un réseau comme s'il était chez moi. Sur le traffic management.
Ça va pour l'instant? Ouais. Ok. Donc maintenant, le service Traffic Manager. Donc le principe, c'est vraiment de pouvoir prendre plusieurs applications, normalement similaires, que vous allez déployer à plusieurs endroits, par exemple sur plusieurs data centers, mais pourquoi pas plusieurs fois sur le même data center. Par exemple, les applications hébergées sur Windows Azure pour les Jeux Olympiques de Sochi, vous avez plusieurs fois la même application sur chaque data center, et vous avez ça dans tous les data centers. Au-dessus de ça, donc là par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai deux cloud services, un qui est en Europe, vous le voyez ici, North Europe, et un qui est East US, donc sur deux data centers différents. Donc au-dessus de ça, je vais mettre en place un Traffic Manager qui va me permettre de faire de la redirection au niveau DNS avec une méthode de load balancing que je vais pouvoir choisir. Si je choisis performance, le client qui va se connecter à mon application va être automatiquement redirigé vers l'IP de l'application qui lui permettra d'avoir les meilleures performances, donc le moins de latence possible finalement. Peut choisir également round robin, comme son nom l'indique, ça va faire un load balancing en mode round robin.
Tourniquet en français,
oui, c'est vrai. Et failover, si jamais j'ai un problème sur la première application, je passe sur la deuxième, et ainsi de suite. Donc normalement, voilà, ça prend quelques secondes à être créé. Je vais pouvoir lui définir les endpoints, c'est-à-dire les points de terminaison en français, puisque je vois que Florent, il tient.
Non, c'est tourniquet, ça me faisait rire.
Et voilà, je sélectionne les différentes applications, les différentes, finalement, instances de mon application que je souhaite utiliser avec ce Traffic Manager. Dans quelques secondes, ça va être configuré, mais j'ai rien qui va se passer puisque j'ai pas d'application vraiment qui a été déployée. Donc j'ai une sonde de monitoring qui a été configurée, mais qui trouvera rien sur mon application. Mais ça m'empêche pas de configurer, voilà, comme tout à l'heure, le RenderBin, performance, failover, avec le bon DNS time to live, parce que pour rappel, ça se passe vraiment au niveau DNS. Le trafic de tout le trafic de votre application ne passera pas par le Traffic Manager, mais c'est simplement le premier appel, bah, toutes les 300 secondes, qui passera par le Traffic Manager. Pour information, la petite anecdote, c'est Traffic Manager, c'est le service sur Windows Azure qui a le meilleur SLA. Il a un SLA de 99,99% de disponibilité.
Donc vraiment pour les scénarios de très haute dispo à ce niveau-là. La partie de données, donc on a vu la partie réseau. Alors, faire la donnée dans Azure, on en a distingué quatre. Il y a quatre familles de services. Donc il y a le Azure Storage, qui est un stockage binaire et qui a une particularité, c'est qu'il est géorédondant. Donc ce stockage, quand vous stockez quelque chose, donc c'est du stockage non relationnel, hein, du bon fichier binaire ou de la table, mais non relationnel, quand vous allez stocker quelque chose là-dedans, dans un data center, il va être dupliqué en temps réel dans le deuxième data center. Donc s'il y a un crash du data center, même si normalement ça existe, ça n'arrive pas, c'est ce qui va permettre de sauver votre stockage. Donc c'est le stockage le plus intéressant et le plus performant. Et c'est scalable. Donc là, vous n'allez pas dire j'ai besoin de 1 giga. Vous prenez ce dont vous avez besoin et ça grandit jusqu'au tera, voire plus, sans aucun souci. Donc on retrouve SQL Database, donc anciennement SQL Azure. Donc ça, c'est SQL Server en mode PaaS. Donc c'est un SQL as a service, donc ça va vous permettre de faire de la donnée relationnelle comme chez vous, mais en mode base prête à l'emploi où vous n'avez pas du tout à gérer le moteur de base de données. HD Insight, ça a été évoqué en plénière avec VTraffic, donc ça, c'est Hadoop, donc en mode Azure, donc ça va vous permettre de faire du big data, donc un autre type de traitement de données, non pas de stockage. Et enfin, un service de cache, donc ça, c'est pas pour stocker de la donnée, mais c'est pour de son utilisation. Donc vous avez dans Azure un cache distribué qui va pouvoir être utilisé dans le cas d'applicatifs web ou autres qui ont besoin de beaucoup de données rapidement. Donc je vais vous montrer la partie stockage qui est vraiment utilisée partout. Donc pareil, j'ai une catégorie ici, je vais créer des comptes de stockage, je peux en créer autant que je veux, ça va être mon point d'entrée. Et à l'intérieur d'un compte de stockage, qu'est-ce que je vais retrouver? Donc je vais prendre plutôt celui-ci, donc je vais pouvoir le monitorer, voir son taux d'utilisation ou autre dans le temps, et je vais pouvoir créer des conteneurs. Des conteneurs, c'est quoi? C'est mes points d'entrée pour mon stockage. Donc par exemple ici, c'est un compte de stockage qui est utilisé par Visual Studio pour avoir un déploiement intermédiaire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment du monitoring depuis le portail. Donc là par exemple j'ai un conteneur qui stocke mes VHD. Donc c'est quand je fais du IaaS, ça va être mes disques durs en fait. Puisque vu que c'est le stockage le plus robuste et le plus performant, Azure l'utilise quasiment pour tout. Donc Azure l'utilise pour tout, mais moi je vais pouvoir également l'utiliser pour mes applications. Donc pareil, moi je préfère le piloter depuis Visual Studio. Donc je suis dans Visual Studio, je vais reprendre, je vais prendre n'importe lequel ici. Je vais pouvoir venir consulter des blobs. Donc depuis Visual Studio, je peux vraiment tout faire. Donc là, je vois des VHD, je pourrais en rajouter ou autre. Je vais pouvoir venir ici créer un nouveau conteneur, démo, qui est un point d'entrée, c'est comme si je créais un répertoire en fait à ce niveau-là. Et là-dedans, je vais pouvoir venir uploader ce qui m'intéresse. Donc ici, assez simple, je prends un logo à ce niveau-là, et à partir de maintenant, il est dans Azure. Donc ici, je vois une URL, je pourrais essayer de l'ouvrir, ici. Sauf que par défaut, évidemment, tout mon stockage est protégé, donc c'est inaccessible, puisque ça peut être... J'ai pas envie que mes VHD se promènent sur Internet, mais je peux très bien utiliser ça pour faire du stockage public. Donc ici, je peux configurer mon conteneur pour le rendre public. Et à partir de maintenant, donc on me prévient, attention, ça va devenir public, tout ce qui va être accessible... Alors, il faut avoir le temps que ça se propage, je vous montrerai juste après, mais ça va être accessible directement au niveau d'Internet. Donc, ça sert pour stocker des informations techniques et pour faire de la haute performance également au niveau stockage. Donc, si vous avez un scénario où vous stockez de l'image, du fichier, de la vidéo ou autre, tout passera par ça. On a aussi également un peu de stockage... Non, à toi, Benjamin.
Non, vas-y, t'as encore 2 secondes.
J'ai encore 2 secondes. Un petit peu de stockage... Alors, excusez-moi, je suis un petit peu... Je me suis mélangé dans mes comptes, démo, cloudbox, je vais prendre celui-ci, tac, tac, tac. un petit peu de stockage non relationnel. Donc ici, par exemple, j'ai du log applicatif. Donc c'est un beau tableau en deux dimensions, mais ce qui a la particularité également d'être ultra performant, géo-redondant. Donc on va toujours se poser la question, est-ce que je fais du relationnel ou du stockage à plat ? Moi, clairement, ce stockage non SQL va être utilisé pour du log, pour des applications qui font beaucoup, beaucoup d'écriture et la lecture peut-être un peu moins rapidement.
Ok, donc vous avez également la possibilité de faire du SQL Server dans Windows Azure, bien entendu. Et une des façons de faire, c'est de demander une base de données as a service. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Windows Azure SQL Database, qui s'appelait avant SQL Azure. Et c'est vraiment une base de données et un serveur de base de données qui vont être gérés par Microsoft. Donc gérés de manière hautement performante, hautement disponible, plutôt, dans le sens où, par exemple, vous avez toujours deux réplicas de vos bases de données qui est toujours maintenue. Et ça, c'est quelque chose, si vous le faites chez vous, vous savez que c'est pas forcément simple à faire et à maintenir. Donc là, je vais tout de suite créer une nouvelle base de données. Mais c'est aussi simple que de remplir son nom, de choisir son édition. Donc ici, j'ai web et business qui sont équivalentes. En fait, c'est juste la taille maximum de la base de données qui change. Je vais jusqu'à 150 gigas. Et j'ai une troisième option qui aurait dû être là, mais je ne me suis pas mis sur la bonne souscription. C'est l'édition premium qui est aujourd'hui en preview, en bêta, qui va venir dans les prochaines semaines et qui va vous permettre de réserver des ressources pour vous. Parce que par défaut, votre base de données, votre serveur logique, il peut être à côté de voisins qui peuvent à un moment donné prendre un peu plus de ressources et finalement que vous en ayez moins pour votre application. Donc ça, Windows Azure essaye de rendre indépendant le plus possible l'ensemble des ressources pour que le voisin puisse bien sûr impacter le moins possible. Il y a certaines ressources où on a fait le choix de donner un petit peu de latitude pour qu'à un moment donné, si on a un client qui a besoin de plus de ressources et que l'autre n'en avait pas besoin, qu'il puisse le faire. Et si tout le monde le fait de manière convenable, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a des scénarios où on va prendre le mode premium, où on veut vraiment réserver, où on veut bien payer pour réserver l'ensemble des ressources d'une machine. Donc je pense que je vais juste m'arrêter là pour gagner un petit peu de temps. Mais globalement, une fois que vous avez votre base de données qui a été créée ici, vous l'utilisez comme n'importe quelle base de données SQL Server. Vous avez un accès TDS, vous utilisez SQL Server Management Studio, vous faites de l'Entity Framework dessus, etc.
Oui, clairement, travailler sur du SQL Server chez vous, sur du SQL dans le cloud, c'est quasiment la même chose. Vous changez juste la chaîne. Il n'y a pas de code dépendant à faire pour ça, d'ailleurs que vous l'utilisez depuis .NET ou autre.
Je vais passer tout de suite au cache, Windows Azure Cache, qui est un service qui va vous permettre de mettre une brique de cache distribué dans vos applications. Donc concrètement, le principe, ça va être de prendre une ferme de serveurs sur lequel vous allez utiliser simplement la mémoire vive, la RAM, pour stocker des données, vraiment en cache, pour ne pas aller les chercher à chaque fois en base de données. Donc concrètement, ça vient de la technologie Windows Server App Fabric Caching, pour ceux qui connaissaient, et c'est très similaire à ce qu'on peut faire avec du même cache. Donc ça va être utilisé dans des scénarios où on va avoir besoin de passer à l'échelle. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de visiteurs, par exemple, ou il y a des périodes de l'année ou de la journée où vous avez beaucoup de visiteurs. Au lieu d'aller taper votre base de données, qui est peut-être la ressource la plus critique, vous allez utiliser le cache. Donc je vais tout de suite créer un nouveau cache. Évidemment que je n'ai pas activé sur cette souscription. Donc globalement, c'est très simple. Le cache est encore en bêta. Sinon, attends, je vais essayer de... Je vais prendre le temps quand même de faire ça bien. Donc ça permet de démontrer que dans Windows Azure, on peut avoir plusieurs souscriptions sur lesquelles on peut activer des fonctionnalités qui ne sont pas forcément encore en JA, en General Availability. Très bien, je ne l'ai pas activé sur celle-ci non plus. Bon, globalement, dans le portail, il n'y a pas grand-chose à voir. La création d'un cache, ça permet. Vous avez simplement à définir la taille du cache que vous souhaitez. Et il va créer pour vous la fameuse ferme de serveurs pour utiliser la RAM. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer côté code. Donc, côté code, finalement, c'est simplement des puts et des gets que vous allez faire. Si je l'ouvre ici, le principe, c'est vraiment d'aller chercher de la donnée dans un cache. Si vous ne la trouvez pas, d'aller la chercher en base de données, la mettre dans le cache, et toutes les itérations d'après vont pouvoir être faites directement sur le cache. Donc là, je récupère mon objet cache, je récupère l'objet product, qui est une liste de produits. Et si je ne le trouve pas, je vais le chercher dans ma base de données, je le mets dans le cache et ensuite je l'utilise. Donc le principe est vraiment très simple, mais c'est très puissant dans le sens où c'est du stockage en RAM vraiment haute performance. Donc beaucoup plus rapide que votre base de données.
Donc autre service, Azure, donc on les a appelés services d'application, ça va être quelques services tiers qui vont vous aider. On en a listé trois ici. Donc le service bus qui va vous servir, qui s'appelait dans le temps Windows App Fabric, comme la partie cache d'ailleurs, qui va vous servir de faire tout ce qui est messaging, que ce soit du messaging asynchrone ou de la notification. Donc le concentration hub pour la partie mobile, par exemple, en fait partie. On va revenir dessus. Un scheduler qui est en preview, qui vient d'apparaître, mais qui était manquant dans Azure. Il y a un an, quand on voulait faire du scheduling, on faisait tourner une instance dans Azure qui tournait et qui allait vérifier de temps en temps s'il n'y avait pas du travail à faire. Donc ça marchait, mais il fallait le développer nous-mêmes. Donc à partir du moment où on développe, on introduit des risques de bugs. Là, Microsoft propose un scheduler créé en main à qui je vais dire tu m'appelles telle chose à tel moment, à telle date, à telle récurrence, etc. Et un dernier service qui n'a rien à voir avec les autres, mais qui peut s'appuyer sur les autres, qui est la partie Media Service. Donc ça, c'est un encodeur as a service qui va vous permettre vraiment de traiter de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui gèrent de la vidéo. Donc je vais vous montrer le service bus. Je retourne dans mon portail. C'est une catégorie à part ici. Donc ici, je vais créer un namespace, donc c'est le nom de mon service. Et à l'intérieur, je vais retrouver mes différentes fonctionnalités présentes ici. Donc on va les lister. Donc file d'attente, c'est pour faire du queuing. Donc si vous utilisiez MSN Queue chez vous, ça va être l'équivalent version cloud. Donc ça va permettre de pousser des messages dans une file d'attente et avoir des applications ou des workers ou des batchs qui vont venir dépiler et traiter avec toujours une consultation de l'historique à ce niveau-là. Et je vais voir à un instant T, voir le nombre de messages en file d'attente. C'est intéressant parce que dans Azure, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'auto-scaling par file d'attente. Donc je vais dire, s'il y a plus de 100 messages en file d'attente, rajoute-moi automatiquement des agents pour les traiter. Et quand la file d'attente est vide, enlève-les. Et c'est là où on commence vraiment à faire du cloud, quand tout fonctionne de manière automatique.
C'est là où on tire parti vraiment des bénéfices d'une plateforme comme Windows Azure.
Tout à fait. Les rubriques ou topics en anglais, tu vois, j'y arrive dans l'autre sens. Donc ça, c'est des queues multidistributeurs. Donc une queue, le premier qui prend traite, en topic, je poste un message et tant que tout le monde ne l'a pas pris, le message est conservé. Donc pareil, ça offre d'autres scénarios. Le relais, donc ça va être pour faire du push, de la notification. Donc en queue, j'attends. En relais, donc je pousse un message sur un bus qui m'écoute. Et tous les gens qui sont abonnés vont recevoir ce message instantanément. On n'attend pas qu'ils viennent le chercher, on le pousse. Donc ça ouvre des scénarios notamment de broadcast ou de multicast ou autre. Le concentration notification, ça c'est ce que vous a montré Benjamin dans la partie mobile services, mais qui est également utilisable hors mobile services. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser mobile services si vous voulez faire du push multiplateforme. Donc là, l'intérêt c'est je veux parler en notification en iOS, Android, Windows Phone. Ici, je fais qu'une seule configuration, comme Benjamin vous l'a montré. Je pousse un seul type de message et il est broadcasté à toutes les plateformes à ce niveau-là. Et ensuite, un petit peu de configuration, ça, je passe, c'est pour pouvoir sécuriser tout ça. Sur la partie scheduling.
Oui, alors on va vraiment aller très vite sur la partie scheduling. Le principe est très simple, c'est simplement de créer des tâches planifiées. Mais en fait, ces tâches planifiées, vous n'allez pas coder une tâche ici. Vous allez lui donner l'URL d'une requête HTTP à exécuter toutes les X minutes, X jours, X mois, X années, etc. Donc, vous commencez par créer une job collection dans laquelle vous aurez des jobs. Et là, vous créez un job sur lequel vous définissez l'action que vous souhaitez utiliser. Donc, c'est en HTTP, en HTTPS, ou alors l'utilisation d'une queue dans laquelle vous allez pousser un message. Donc, globalement, ça implique que vous ayez tout le temps une machine qui soit là pour écouter, enfin pour aller dépiler les messages de la queue pour pouvoir les traiter. Donc à vous de choisir ces différentes méthodes. Vous avez ensuite la possibilité de faire votre get, votre put, etc., les différents verbes HTTP. Vous faites votre requête et vous définissez si c'est un job qui va être fait une fois à une certaine date et heure ou alors quelque chose de récurrent. Donc le principe vraiment très simple.
Sur la partie Media Services, donc je vais vous montrer un cas concret, vu qu'on savait que ça allait être intense. On vous a préparé des petites vidéos de 15 à 10 minutes qui présentent chaque service. Donc vous pourrez les regarder après coup, je vous mettrai l'URL à la fin dans le slide. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ça, on utilise Media Services pour le mettre en place. Donc technique, donc là j'ai un site public et derrière j'ai un back-office dans lequel je vais pouvoir publier des vidéos. Donc l'intérêt, c'est que je publie qu'un seul format qui va être un format hot dev, donc c'est le format qui va sortir du studio d'enregistrement. Et ce que va me faire Media Service, c'est que dynamiquement, il va m'encoder ma vidéo et la distribuer dans tous les flux nécessaires. Donc si vous vous connectez au site web depuis un téléphone, vous allez avoir de la base dev, vous allez pouvoir télécharger le flux en dev, vous allez pouvoir avoir du smooth streaming, vous allez pouvoir de l'HTML, du download progressif ou autre. Ça vous permet également d'extraire automatiquement les vignettes. Bref, c'est vraiment un back-office pour vos médias. Donc on s'appuie sur du Azure Storage pour le stockage, puisque c'est ce qu'il y a de mieux comme techno de stockage. Et lui, c'est vraiment, il propose vraiment le système d'encodeur as a service qui vient par-dessus. On continue. On est en train de rattraper le temps perdu en plus.
Ouais, on est pas mal là.
Gestion de l'identité. Donc l'identité, c'est un peu le nerf de la guerre. Tout le monde veut gérer votre identité dans le cloud. Dans Azure, vous avez deux choses. Vous avez quelque chose qui s'appelle Windows Azure Active Directory qui va vous permettre de faire deux choses au choix. Ou ben, vous avez un AD chez vous, vous avez besoin d'avoir un tenant, enfin une identité dans le cloud, d'avoir proposé à l'utilisateur une identité privée mais qui est disponible dans le cloud. Ça va vous permettre de synchroniser votre AD avec son AD dans le cloud. Ou, ben, nous c'est le cas chez nous, vous n'avez pas d'Active Directory chez vous, vous avez Office 365, vous avez besoin de gérer l'identité sans avoir envie de gérer un AD chez vous, ça va vous permettre de créer un tenant dans le cloud, donc pour pouvoir gérer ben, vos comptes, vos utilisateurs, vos applications et autres. Ça, c'est Windows Azure Active Directory. Un autre service qui s'appelle ACS, Access Control Services, ça va vous permettre de faire de la fédération d'identité, donc dans un contexte public ou privé. Dans un contexte public, la fédération d'identité, c'est quoi? Vous avez un site web et vos utilisateurs ils veulent s'authentifier depuis Live, Facebook, Google ID ou ce que vous voulez au choix, ben plutôt que de redévelopper les 10 implémentations pour chaque provider qui existe, vous allez dire, ben moi je me connecte à ACS, et ACS par configuration, il va gérer la validation chez Live, ou chez Google, ou chez Facebook, etc., etc. Donc c'est un intermédiaire d'authentification. Ça peut également fonctionner, vous avez deux Active Directory, vous voulez les faire communiquer entre eux, vous voulez pouvoir vous authentifier sur l'un ou sur l'autre, ça peut servir dans ce contexte-là. Donc je vais vous montrer très rapidement la partie AD. Donc je vais me connecter ici sur mon AD à moi, ici. Donc ça se présente comme un AD traditionnel. Donc ici je vais gérer des utilisateurs donc, qui ont une identité dans le cloud. Je vais pouvoir créer des groupes évidemment, faire synchroniser mon Active Directory si j'en ai un, là la synchronisation est désactivée, et déclarer des applications. Donc là j'ai deux cas de figure. Donc j'ai hébergé une application dans le cloud, je veux que les utilisateurs qui se connectent ne puissent se connecter qu'avec une identité de mon entreprise. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir déclarer, ici, une application que j'ai développée. Et là, Visual Studio va me faire le travail, il va automatiquement se synchroniser avec mon AD pour dire si la personne n'a pas un compte Office 365 ou un compte Windows Azure Active Directory, il ne peut pas s'authentifier. Ou deuxième cas de figure, je veux m'authentifier avec une application tierce, et j'ai pas envie moi-même de faire, j'ai acheté un logiciel qui est hébergé en mode SaaS. La Microsoft référence, aujourd'hui, ça augmente 610 applications, donc vous avez de tout à ce niveau-là. Vous avez du Salesforce, par exemple, et qui va vous permettre, avec votre identité Windows Azure Active Directory, de vous connecter avec un scénario single sign-on sur tous ces fournisseurs d'applications. Ça vous évite de redévelopper une implémentation pour chaque fournisseur. Sur la partie ACS.
Alors, sur la partie ACS, on ne va pas faire de démo, juste pour rappuyer le principe. J'ai rien de spécial à l'écran. Le principe, c'est vraiment de fédérer des fournisseurs d'identité externes. Donc, en plus, par exemple, d'autoriser vos employés à se connecter à une application, peut-être que vous avez des partenaires avec lesquels vous avez à travailler, mais que vous voulez pas forcément mettre dans votre Active Directory, qu'il soit en local ou sur le cloud. Dans ce cas, vous pouvez très bien leur demander de se connecter via un compte Microsoft ou un compte Facebook ou un compte Google, etc. Et vous allez pouvoir, via ACS, configurer l'ensemble de ces plateformes, de ces fournisseurs d'identité. Et votre application, elle, va communiquer seulement avec ACS. Donc ACS, aujourd'hui, c'est ce que Florent montre sur son application Infinite VOD. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont leur annuaire qui est utilisé pour les employés d'Infinite Square. Et ils ont la possibilité de se connecter avec des comptes Microsoft, anciennement Windows Live ID. Donc ça permet vraiment de simplifier côté code, puisque toute la complexité va être gérée par ACS, qui va bientôt être réintégré à Windows Azure Active Directory. Donc là, c'est une fonctionnalité séparée. Ça va s'intégrer petit à petit dans le portail pour ceux qui auraient vu l'ancien portail.
Dernier point sur la partie AD, juste pour l'évoquer. Donc une nouveauté, pareil, d'Azure. Azure vous permet maintenant de faire de l'authentification forte, c'est-à-dire avec validation par SMS ou appel, sur vos applications. Donc vous pouvez activer cette fonctionnalité par-dessus Windows Azure Active Directory pour avoir des scénarios un petit peu plus poussés à ce niveau-là.
Ok, donc ils ont applaudi à côté, ça veut dire que c'est la fin. Donc globalement, excusez-moi, je ne me lève pas pour la conclusion à cause du micro, mais globalement, on a essayé de vous montrer un certain nombre de services. On n'a pas le temps de vous les montrer tous. On avait prévu de pas tous vous les montrer. Il y en a d'autres. Visual Studio Online, c'est vraiment un TFS à deux services qui est hébergé dans Windows Azure. Donc votre code source peut être hébergé dans Windows Azure, la gestion du code source, la gestion des work items, etc. Vous avez des backups qui peuvent être faits dans Windows Azure à partir de Windows Server qui sont pas forcément dans Windows Azure. Donc la fonctionnalité de backup de Windows Server qui va communiquer directement avec Windows Azure. Le Recovery Manager qui va vous permettre, si vous faites du cloud privé, donc des grosses fermes Hyper-V System Center et que vous voulez synchroniser un site en PRA, Recovery Manager va pouvoir vous permettre de synchroniser deux sites Hyper-V globalement. Bistock Service, c'est du Bistock as a service. Donc comme son nom l'indique, HPC, ça se passe maintenant dans Windows Azure, c'est-à-dire que les machines, vous n'avez plus besoin de les avoir chez vous si vous faites du calcul distribué. Vous les demandez dans Windows Azure au moment où vous en avez besoin. Store Simple, c'est de l'appliance de stockage. Vous allez stocker les données qu'on appelle chaudes chez vous, donc celles qui sont utilisées fréquemment. Et automatiquement, les données froides qui sont utilisées moins fréquemment vont être stockées dans Windows Azure. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de stockage, donc une infinité de stockage, avec potentiellement des très bonnes performances sur du stockage SSD, sur les données que vous utilisez le plus. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres. Si vous voulez essayer ça, si tu peux passer la slide, vous avez la possibilité, si vous êtes abonné MSDN, d'avoir un certain nombre d'euros de Windows Azure que vous pouvez consommer tous les mois. Donc allez-y, il y a juste à activer vos bénéfices MSDN. Si vous n'avez pas MSDN et que vous voulez tester, il y a une offre d'essai qui existe. Si vous êtes partenaire également, il y a une offre un petit peu comme celle MSDN. Et voilà, que dire de plus ?
D'autres sessions pleines.
Ah voilà, on d'autres a sessions.
Donc vous avez le lien en haut vers la liste des vidéos, donc le design est en train d'être mis à jour, le site est moche, mais en tout cas vous avez déjà les premières vidéos, donc vous allez avoir une quinzaine de vidéos de 5 à 10 minutes où on prend le temps de pouvoir expliquer chaque service, et puis on a essayé de faire une liste avec Benjamin de quelques sessions intéressantes. Donc,
c'est un petit peu dur, on a essayé de mettre en gras les mots-clés, donc il y en a beaucoup sur beaucoup des services qu'on vous a montrés, sur des sessions cross-service, elles vont tous être très intéressante, donc n'hésitez pas à y aller, et on va garder encore 5-10 minutes pour les questions.
Merci.
Merci.